Radio Okapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Au sommaire de cette édition d'information, un convoi motorisé qui s'est rendu à Lilanga au Congo-Brazzaville a fait naufrage mardi soir à Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Le bilan fait état d'une centaine de morts à la base de ce drame, la surcharge. Vive tension en Ituri où des miliciens de la Codeco ont tué ce jeudi matin 7 déplacés sur les sites de Savo. Les manifestants fustigent la défaillance des FARDC et des casques bleus. Le chef de bureau de la MONUSCO, Carnassoro, affirme que l'intervention des casques bleus a permis de limiter les dégâts. Notre invité, c'est le coordonnateur de l'Agence de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain pour les Grands Kassai. Damien Twambilangane affirme que la société SACIM va entamer en février prochain les travaux sur les chutes de Mbombo car les fonds sont déjà disponibles. Madame, messieurs, bonsoir. Une centaine de morts, c'est le bilan du naufrage survenu mardi soir à Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Il s'est agi d'un convoi motorisé qui se rendait à Lilanga, au Congo-Brazzaville, sur la rivière Lulunga, à proximité du village de Likwelo. Les rescapés disent avoir perdu à l'occasion des produits vivriers et des bêtes. Le drame a été causé par la surcharge. Le président de la société civile de Bassankoussou indique qu'aucune opération de secours n'est envisagé jusque-là. Jean-Pierre Wangilai a été joint par Paul Richard Malengela.
C'était la nuit d'aventure à 78 km vers le village du Kouilou. Il y a un convoi motorisé qui se dirige à tout moment vers Lilanga. Ça va embarquer beaucoup de gens avec le matériel. Vers minuit, la courtine. C'est un naufrage-là qui a causé une perte humaine, plus ou moins. De cette façon, mais si ces gens sont sauvés, ça peut être dans les 55 personnes. Et les dégâts de l'argent, des bêtes, c'est qu'ici a paniqué vraiment la vie de la Saint-Couche. Les rescapés, ils m'ont dit que s'ils sont sauvés, au moins 55 personnes tuent des sangs. Donc les rescapés, peut-être dans les 145 personnes qui sont mortes. Donc la cause, c'est aussi le chargement. Vu qu'ils ont avisé, vous connaissez bien, qu'il n'y a pas moyen de transport à tout le monde. Dans cette province ici, dans toute la Saint-Couche. Il y a un surchargement et une certaine négligence aussi des armateurs. Parce qu'il fallait quand même évacuer un peu de l'eau. L'eau est entrée jusqu'à vers minuit et c'est ça qui la pluie s'est noyée.
54 décès sur 241 cas d'accidents de la route et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans la ville de Bukavu en 2022. Ces statistiques ont été publiées dans le rapport annuel de la police de circulation routière du Sud Kivu. À Bukavu, la correspondance de Rachel Kiesembangu.
Les routes de Bukavu ont énormément tué en 2022. Les accidents ont entraîné 54 décès d'après le rapport de la police des circulations routières rendu public mercredi, soit à peu près un décès sur la route tous les 6 jours. La PCR dit avoir aussi enregistré 147 cas de dégâts corporels graves et 98 cas de dégâts corporels légers. 146 cas de dégâts matériels importants et 106 moins importants ont été aussi relevés. Ici, il s'agit des dommages qui ont affecté les engins. Mais quelles sont les causes de ces accidents? Pour la PCR, 122 cas ont été consécutifs à l'excès de vitesse, 36 dus à l'ivresse au volant, 10 suite aux pannes techniques liées au système de freinage, 10 au mauvais état de route et 3 suite au mauvais stationnement pour ne citer que cela. La PCR ajoute que, grâce à la sensibilisation faite à l'intention des usagers de la route, il y a eu baisse des cas d'accidents en 2022 par rapport à l'année 2021 où 643 cas d'accidents ont été enregistrés. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Autre région, autre drame, à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Deux enfants d'une même famille trouvés morts et 7 maisons calcinées. Bilan d'un incendie survenu hier soir sur l'avenue Kisangani dans le quartier Mapendo à Birere. Les sinistrés qui manquent de tout appellent à l'aide de bonne volonté. Le récit de Bernardine Diambou.
Cet incendie meurtrier a commencé vers 3h locales. Au total, 7 maisons, dont 5 en planche et 2 en dur, sont parties en fumée. Sur les lieux du drame, rien que la cendre est visible. Les sinistrés qui ont tout perdu déplorent également la perte de 2 enfants âgés respectivement de 3 et 4 ans d'une même famille. L'un des sinistrés rencontrés sur le lieu pense que Les dysfonctionnements du système de courant électrique seraient à la base de cet incendie dont le feu s'est vite propagé.
Il y a des soupçons que c'était les courants. Il y a eu des dégâts matériels. Quand la protection civile vient une heure après que l'incendie ait lieu, vraiment, ça pose beaucoup de problèmes. Et de cela, ce qui est demandé aux autorités, de veiller à toutes ces familles qui vont passer la nuit à la Belle Étoile et voir comment ils peuvent venir en aide en nous amenant un peu de tôle pour voir comment on peut faire même des petits hangars.
Contacter les coordonnateurs provinciaux de la protection civile déplore ces énièmes cas d'incendie dans la ville. Joseph Makundi indique que la ville de Goma ne dispose que d'un seul véhicule anti-incendie. Il plaide pour l'achat d'autres véhicules anti-incendie afin d'augmenter la capacité d'intervention dans une ville où les incendies sont récurrents. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, en Ituri, les miliciens de la Codeco ont attaqué ce jeudi matin le site de déplacés de Savo dans les territoires de Djougou. Le bilan dressé par des sources concordantes fait état de 7 blessés parmi les déplacés, des blessés et d'importants dégâts matériels. Les manifestants fustigent la défaillance des FARDC et des casques bleus pour la protection des civils face aux exactions commises par les groupes armés. Reportage à Bounia, d'Isaac.
Les miliciens de la Codeco munis de fusils et d'armes blanches se sont introduits vers 2h du matin au site de Savo qui héberge environ 30 000 déplacés. Ils ont découpé à la machette 7 personnes dont 5 enfants et une femme, affirment des sources de sécurité. Ces hommes armés ont également saccagé plus de 50 maisons et presque tous les déplacés ont fui la nuit pour s'installer au centre commercial de Boulé à environ 3 km. Les FARDC qui étaient en sous-effectif à Savo et à Gali n'ont pas réussi à déjouer cette attaque. Les casques bleus de la MONUSCO basés à Bayo à environ 5 km sont arrivés après les drames, ce qui a suscité la colère de certains habitants qui ont envahi ce matin la base de la MONUSCO pour exiger son départ. Les manifestants accusent les FARDC et les forces de la MONUSCO de n'avoir pas évité cette nouvelle attaque au site de Savo où environ 62 déplacés ont été tués en février 2022. Pour le moment, un calme précaire s'observe dans la zone. Mais les déplacés sont à débandade car ils ont peur de regagner les sites qui, selon eux, n'est pas protégé. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En réaction, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri affirme que l'intervention des casques bleus qui étaient en patrouille dans la zone a permis de limiter les dégâts. Car Nassoro précise que la zone d'intervention est vaste et que les forces onusiennes ne peuvent être partout à la fois. Il dénonce en même temps les exactions commises par des miliciens de la Codeco qu'il qualifie de crime contre l'humanité. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
Comme vous le savez, la zone est vaste et nos hommes sont en train de patrouiller en permanence pour éviter que les miliciens puissent s'en prendre aux populations civiles. Malheureusement, nous ne pouvons pas être partout à la fois. Donc ces gens profitent du moment où les patrouilles se trouvent à une certaine distance pour attaquer le site de Bayo. Ils ont été alertés, ils sont immédiatement revenus sur le site de Bayo, mais malheureusement, ces criminels avaient déjà commis leur forfait. Donc la patrouille est repartie vers le camp pour pouvoir se projeter sur d'autres endroits. En ce moment, la population n'a pas compris. Elle a suivi notre patrouille vers la base et elle a pris à partie donc la base de la MONUSCO. Mais je voudrais rassurer tout le monde que nous faisons ce que nous pouvons, avec les moyens que nous pouvons. Et nous restons persuadés que le travail que nous faisons en ce moment sur place permet tout au moins de limiter l'ampleur des crimes que ces personnes sont en train de commettre. Je profite en même temps pour rappeler que c'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité que d'attaquer un site de personnes déplacées et les personnes qui commettent ces actes seront poursuivis et ils seront amenés devant les tribunaux pour répondre de ces crimes.
Restons dans la région où la faction de la milice Zaïre, dénommée Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, s'engage à adhérer au processus de paix initié à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les délégués de cette milice Zaïre l'ont dit mercredi après-midi au gouverneur de province. C'était au cours d'un conseil provincial de sécurité tenu à Bounia. Les autorités militaires de l'état de siège saluent cet engagement et encouragent en même temps les autres jeunes qui ont pris les armes contre la République d'emboîter le pas. Le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Les délégués de ce mouvement armé conduit par Benjamin Bahati, leur porte-parole, se disent engagés dans le chemin de dialogue pour la recherche de la paix à l'Ituri. Ces groupes armés que plusieurs sources concordantes attribueraient la paternité de la milice active appelée Zaïre acceptent de même d'adhérer au pourparler de Nairobi et au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire des DRC. Une option saluée par le gouvernement provincial. Son porte-parole lance un appel aux jeunes qui traînent les pas, de désarmer leur cœur et de déposer les armes. Le lieutenant Gilles Ngongoun.
Nous encourageons tous les groupes armés d'antens illégaux d'armes d'emboîter les pas pour faire la paix autour de cette approche initiée par le président de la République. Les commandants suprêmes de forces armées, dans cette approche où les enfants de l'Ituri doivent désarmer leur cœur en déposant les armes, en faisant la paix en province de l'Ituri.
Les porte-parole des FARDC à l'Ituri précisent que des pourparlers se poursuivent pour convaincre toutes les factions de la milice Zaïre très active dans les territoires d'Iromou, d'Idjougou et de Mahagui d'adhérer au processus de paix en cours. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé-Kyenge a tenu hier mercredi une réunion de sécurité sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au menu l'attentat de Kasindi, l'activisme des rebelles du M23 à Rutshuru dans le Nord Kivu, les conflits interethniques à Djougou et la situation dans le Grand Bandundu. Quelques membres du gouvernement central et des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale ont pris part à la rencontre. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katemwe, dans cet extrait choisi par Élisée Tshikota Mwambui.
Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kasindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
On enchaîne avec le Kwilu où 275 déplacés du territoire de Bakata ont quitté hier mercredi après-midi la ville de Bandundu pour regagner leur village de Missia, Bukusu et Kimpana. Ils avaient fui récemment les violences des hommes armés. Ces déplacés ont emprunté la voie fluviale mise à leur disposition par Sylvain Delmambo, l'élu de Bakata, en partenariat avec le gouvernement provincial. Ils veulent s'assurer que la sécurité est rétablie dans leur terroir. Pour en parler, retrouvons à Bandundu ville Irène Boma.
Au port de Bouzala, à leur départ, l'on peut voir sur les visages de certains de ces déplacés des sentiments de joie pour les uns, d'angoisse et de peur pour les autres, et aussi les sentiments de regret pour les autres encore. Mireille Massiala, par exemple, les larmes aux yeux, pense à son mari et à son fils enterrés à Bandundu à la suite des mauvaises conditions. J'étais venue à Bandundu avec mes trois enfants et leur père. J'ai perdu mon mari ici avec mon fils cadet de 3 ans qui est mort à cause de la faim. Je regrette amèrement. Cédric Ditadi, qui rentre à Missia quant à lui, plaide pour que la paix soit véritablement rétablie dans son village. Nous avons passé plusieurs mois à Bandundu, à peu près 4 mois. J'ai peiné avec ma femme et les enfants sans solution. Aujourd'hui, nous rentrons chez nous, mais nous n'avons rien à manger là-bas et tout est difficile. Nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Nous demandons aux autorités d'assurer notre sécurité. Précisons que le retour de ces 275 déplacés vers Bakata est organisé par le député national Sylvain Delmambo, élu de ce territoire, qui a loué cette embarcation qui les a transportés. Cela en collaboration avec le gouvernement provincial du Kwilu. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Front Polisario, mouvement indépendantiste du Sahara occidental, tient son 16e congrès actuellement dans un camp des réfugiés en Algérie. Lors de ce premier congrès, depuis la rupture du cessez-le-feu en 2020, Brahim Ghali, le secrétaire général du mouvement soutenu par l'Algérie, s'est montré très offensif et a lancé en même temps un message à la poursuite de la lutte armée contre le Maroc. La présidente du groupe français Rassemblement National à l'Assemblée nationale, donc Marine Le Pen, a effectué effectué un voyage de 3 jours au Sénégal. Au programme, tisser des liens avec des personnalités importantes, des parlementaires, des autorités et peut-être aussi le chef de l'État. Mais la visite de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle française a suscité du coup des vives réactions dans le pays. La députée et ancienne première ministre Aminata Touré s'est dit scandalisée par cette visite. La Suède a décidé d'offrir à l'armée ukrainienne des canons à longue portée réclamés depuis plusieurs mois par Kiev. Annonce faite ce jeudi après-midi par le premier ministre suédois. Après une réunion du gouvernement central, le dirigeant du pays nordique a indiqué que la première livraison portera sur des systèmes d'artillerie pour aider l'Ukraine qui est envahie par la Russie.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain dans les Grands Kassai. Damien Twambilangane affirme que la société SACIM va entamer en février prochain les travaux sur les chutes de Mbombo, car les fonds sont déjà disponibles. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Damien Twambilangane, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Chute Mbombo. Voilà ce que là on a amené, je vais dire, le représentant d'une entreprise, SACIM. C'est pour la prospection, c'est pour la construction. Alors pourquoi nous sommes ici?
Nous avions déjà lancé la machine de la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Donc nous sommes évidemment dans les processus. Donc comme on disait, il y avait des études qui avaient déjà été faites. Et cette fois-ci, en tout cas, nous voulons avoir cette tendance d'identifier une société qui a de l'expertise. C'est vrai que de toute façon, le mode normal pour nous, c'est les appels d'offres. Mais ici, moi personnellement, j'essaye de faire avancer les choses avec une société qui a de l'expertise. Ici, c'est la société qui a construit la centrale hydroélectrique de Toubitoubitch à Mbujimayi, à Miabi. C'est une centrale de 12 MW qui alimente SACIM, la société minière des Chinois. Enfin, c'est une société mixte avec le Congo. Mais c'est eux qui ont construit Toubitoubitch. Tout le monde peut aller sur YouTube, écrire Toubitoubitch, ils verront qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail. Et c'est la même société que nous sommes en train de penser impliquer dans la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, parce que c'est plus ou moins les mêmes conditions, la même puissance. Et ce sont des gens qui maîtrisent à un très haut niveau la technologie qu'il faut à cet endroit.
Ils viennent pour la prospection. Qu'est-ce qui va suivre? Formalisation d'un partenariat, un contrat? Et ça va prendre quelle période? Parce que, en tout cas, ce que les gens attendent, c'est voir les ampoules ou une ampoule s'allumer.
Les gens doivent comprendre que ce projet de Mbombo va prendre maximum 18 mois. C'est le nombre de mois que nous avions déjà annoncé.
À dater de?
Donc, aujourd'hui, le défi que nous avons, c'est de finaliser tout ce qui est paperasse, ça veut dire tout ce qui est démarche administrative, contractualisation, tout ça au plus tard fin du mois de février. Parce que vous savez, nous on se plaint beaucoup quand même de la lourdeur administrative dans notre écosystème administratif. Mais le défi qu'on s'est donné, c'est que à la fin du mois de février, que nous ayons bouclé en tout cas tout, du moins sur le plan administratif, et les choses avancent vraiment très bien à ce stade. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut compter 18 mois pour pouvoir avoir les premiers kilowattheures qui sont desservis. Donc pendant toute cette année 2023, la population centre-kassaïenne viendra commencer à faire du tourisme sur ce site qui sera un grand chantier.
Un grand chantier. Mbombo va alimenter Kananga ou tous les autres territoires. Comment ça va se passer?
Non, Mbombo, la mission de Mbombo particulièrement, 12 MW, c'est pour alimenter Kananga et ses périphéries. Parce que vous savez, en CERN, nous, c'est les zones rurales et périurbaines. Mais on ne peut plus refaire l'erreur de l'époque où on faisait Inga-Chaba, la ligne nous passe sur la tête et Kananga est en dessous, il n'y a pas d'électricité. Non, nous tirons la ligne de Mbombo jusque Kananga et nous allons alimenter la ville et puis bien sûr toutes les zones périphériques. Wow. Et au-delà de ça, avec l'autre programme que nous avons des projets d'urgence, nous implémentons des centrales solaires et hydroélectriques à proximité des populations, dans les territoires. Nous avons tout un grand programme sur ça que nous avons déjà lancé d'ailleurs. Mais ça, c'est pour des centrales solaires et hydroélectriques de petite puissance, 100 kW jusqu'à 1 MW. Mais ici, nous sommes pour 12 MW. C'est une puissance qui va industrialiser la ville de Kananga et ses périphéries. Mbombo, le choix, parce que d'une part, c'est un site qui est idéal. Il est situé à plus ou moins maximum 15 km de la ville de Kananga. Ça veut dire qu'il y a une incidence sur le coût. On n'est pas obligé de faire le transport en haute tension. Nous allons transporter en moyenne tension. Ça, ça baisse déjà sur les niveaux du cours. Ça, c'est un. La deuxième chose, Mbombo, c'est sur la rivière Louloua, où nous avons un très grand débit. Le débit ici à utiliser, c'est plus ou moins 200 mètres cubes par seconde. C'est un très, très bon débit. La troisième chose, c'est le grand potentiel. Mbombo, en réalité, le site où nous sommes, a le potentiel d'aller jusqu'à 20 MW. Mais nous allons progressivement, nous allons commencer par 12 MW. Et puis, progressivement, nous pouvons continuer avec les autres centrales. Et puis, quatrièmement, c'est par rapport aux technologies. Vous savez, la première étude Mbombo a été réalisée dans les années 94. Mais aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées que aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent d'aller très vite avec le site. Voici les principales raisons qui nous permettent de pouvoir choisir Mbombo.
Alors, qu'est-ce qui rassure ?
Nous sommes sur une très très bonne voie. On ne souffre pas de la contrainte financière. On ne souffre pas de la contrainte technologique. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu la lourdeur administrative. Nous nous donnons les moyens pour vaincre ça. Mais maintenant, le problème qui pourrait se poser sérieusement, ce serait le degré d'appropriation du projet par la population.
Monsieur Damien Tambilangane, nous vous disons merci.
Merci à vous aussi.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain pour les grands Kassai. Damien Tambilangane était interviewé par François Kadima. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Irung Mouchige. Julie Ngala, c'est à vous.